VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 6 mai 2022. Jean-Roger Bion à ce micro, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, réveil électoral pour le Premier ministre britannique Boris Johnson. Le Parti conservateur perd ses bastions historiques lors des élections locales. Ici aux États-Unis, Karine Jean-Pierre, une femme noire nommée porte-parole de la Maison-Blanche en remplacement de Jen Psaki qui quitte ce poste le 13 mai. Génocide au Rwanda, un ex-préfet jugé en France pour le massacre de 50 000 personnes dans une école de Mourambi. En Algérie, les organisations des droits humains dénoncent des interdictions arbitraires de sortie du pays. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Élection locale en Grande-Bretagne, le parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson a essuyé ce vendredi de lourdes défaites, notamment à Londres. Mouamadou Mfa nous en dit plus.
Selon les premiers résultats, les conservateurs perdent 11 conseils et plus de 170 sièges par rapport à 2018, tandis que le Labour remporte 7 conseils et plus de 110 élus supplémentaires. Le parti conservateur a perdu des sièges à Londres, dont Westminster, qu'il dirigeait depuis 1964. Hors de la capitale, le Labour n'obtient pour l'heure que des gains limités, tandis que de plus petits partis, libéraux démocrates et verts, progressent. Un résultat fantastique, c'est un grand tournant pour nous, a déclaré le chef du parti travailliste, Keir Starmer, à ses partisans à Londres. Depuis sa circonscription à l'ouest de Londres, Boris Johnson a évoqué des résultats mitigés. Il a reconnu une dure soirée pour les conservateurs. La popularité de Boris Johnson, 57 ans, dont bientôt 3 à Downing Street, s'est effondrée. Il a écopé d'une amende le mois dernier pour avoir enfreint le confinement qu'il avait lui-même imposé durant la pandémie de Covid-19. Au pouvoir depuis 12 ans, les conservateurs se voient aussi reprocher leur soutien insuffisant à des ménages étranglés par l'inflation.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a choisi Karine Jean-Pierre comme la prochaine porte-parole de la Maison-Blanche, attribuant pour la première fois ce poste très exposé à une femme noire et ouvertement lesbienne. Les précisions de John Lydon.
Karine Jean-Pierre va remplacer Jen Psaki, dont elle était l'adjointe à partir du 13 mai, selon un communiqué de la Maison-Blanche dans lequel Joe Biden s'est dit fier de cette nomination. Le président loue l'expérience, le talent et l'honnêteté de sa future porte-parole. Elle sera la première femme noire et ouvertement lesbienne à ce poste, a tweeté pour sa part Jen Psaki, qui a fait savoir dès le début qu'elle passerait la main en cours de mandat, ajoutant « Elle donnera une voix à de nombreuses personnes et permettra à beaucoup d'avoir de grands rêves ». Karine Jean-Pierre, 44 ans, est la première femme noire à endosser le rôle de chargée de la presse à la Maison-Blanche. Née à Martinique, de parents haïtiens qui ont ensuite émigré aux États-Unis, elle a travaillé sur les deux campagnes de Barack Obama, puis celle de Joe Biden en 2020, avant de rejoindre son équipe à la Maison-Blanche.
Les dirigeants des grandes puissances du G7 vont avoir dimanche une réunion virtuelle consacrée à la guerre en Ukraine, à laquelle participera aussi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé aujourd'hui une porte-parole du chancelier allemand dont le pays assure la présidence du G7 cette année. De grandes puissances agricoles dont l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et l'Australie se sont engagées ce vendredi à assurer la sécurité alimentaire du monde en dépit des chocs provoqués par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Hongrie bloque toujours le projet d'embargo européen sur le pétrole russe et de difficiles négociations sont en cours entre les 27 pays membres pour trouver un accord pendant le week-end, indiquent plusieurs sources diplomatiques. Pour la Hongrie, l'interdiction des achats de pétrole et de produits pétroliers à la Russie d'ici à la fin de l'année portait atteinte à l'unité de l'Union européenne. Si aucun pays n'est trouvé ce week-end, je devrais convoquer une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne la semaine prochaine, a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. L'Afrique fait face à une crise sans précédent provoquée par l'invasion russe en Ukraine, notamment avec la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant, ont averti ce vendredi deux responsables du programme des Nations Unies pour le développement ans. C'est une crise sans précédent pour le continent, a souligné l'économiste en chef du PNUD Afrique, Raymond Gilpin, au cours d'une conférence de presse organisée à Genève, en Suisse. Nous voyons la possibilité de tensions dans les points chauds comme le Sahel, certaines parties de l'Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
12 manifestants ont été blessés aujourd'hui à Kinshasa lorsque la police a dispersé des rassemblements contre la révision de la loi électorale en République démocratique du Congo. Selon les organisateurs, la manifestation à l'appel des opposants au pouvoir du président Félix Tshisekedi et des organisations de laïcs catholiques et protestants a rassemblé près de 200 personnes à plusieurs endroits près du palais du peuple, le siège du Parlement. Les opposants au pouvoir congolais ainsi que les églises catholiques et protestantes soutiennent qu'il faut d'abord dégager un consensus sur les grandes options de la loi électorale avant son examen par les députés. Mais la majorité les a invités à transmettre par écrit leurs observations au bureau de l'Assemblée nationale de la RDC. Au Congo-Brazzaville voisin, le premier tour des élections législatives et les élections locales a été fixé au 10 juillet. Le premier tour de ces législatives et les locales aura lieu le 4 juillet pour le vote des membres de la force publique et le 10 juillet pour le vote général, a déclaré Thierry Mungala, le porte-parole du gouvernement. La date du second tour des législatives qui vise à renouveler l'Assemblée nationale n'a pas été fixée. La justice française estime que le massacre dans une école de Murambi lors du génocide de 1994 au Rwanda a été organisé par les autorités locales, dont l'ancien préfet Laurent Boutcho-Baruta. Il sera jugé à partir de lundi à Paris. Les détails avec Rosine Monezero.
Pendant le génocide de 1994, des dizaines de milliers de Tutsis se sont réfugiés dans une école technique de Murambi, dans le sud du Rwanda. Les autorités locales leur avaient recommandé d'aller s'abriter dans cette école en leur promettant protection. Quelques jours plus tard, selon les archives du génocide rwandais, seules 34 personnes ont survécu sur quelques 50 000 qui étaient réfugiés là, espérant échapper au massacre. La justice française estime que ce massacre a été organisé par les autorités locales, dont l'ancien préfet Laurent Boutcho-Baruta. Il sera jugé à partir de lundi à Paris pour génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. De son côté, l'ancien préfet conteste depuis le début les accusations. Ses avocats vont plaider l'acquittement. Le ministre rwandais de l'Unité nationale et de la Réconciliation, Jean Damascène Bizimana, s'est félicité de ce procès, disant que c'est une avancée et souhaite que justice soit faite.
Amnesty International et Human Rights Watch dénoncent des interdictions arbitraires de quitter l'Algérie imposées à 3 militants algéro-canadiens. Claire Morin-Gibou.
Les autorités algériennes ont empêché au moins 3 citoyens à la double nationalité canadienne et algérienne de rentrer chez eux au Canada entre janvier et avril 2022. Les ONG déplorent qu'il n'y a aucune base légale ou justification écrite, ce qui rend difficile tout recours devant les tribunaux. Ces personnes ont aussi été interrogées sur leur lien supposé avec le Irak, le soulèvement populaire pacifique qui a eu lieu jusqu'au début 2020. L'une de ces personnes est Lazare Zouaïmia, membre d'Amnesty International au Canada. Empêché de prendre l'avion à 2 reprises, Lazare Zouaïmia a finalement pu regagner le Canada le 5 mai après avoir été inculpé et détenu pendant 5 semaines. Les 2 autres personnes sont toujours bloquées en Algérie. Ces interdictions arbitraires de voyage sont destinées à faire pression sur les militants de la diaspora, dénoncent les ONG.
Dialogue politique au Tchad. Emmanuel Macron souhaite que le dialogue puisse se tenir dans un calendrier rapproché et proposer l'appui de la France en ce sens au cours d'un appel téléphonique avec le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno. Paris avait déjà réagi lundi au report de ce forum en exprimant son attachement à sa tenue dans les meilleurs délais possibles. Le dialogue tchadien, initialement prévu le 10 mai, a été reporté sine die à la demande du Qatar, médiateur d'un pré-dialogue qui piétine à Doha entre la junte et les innombrables groupes rebelles. Et puis, des organisations de la société civile en Gambie ont pressé les autorités d'engager des poursuites contre l'ancien président Yahya Jammeh à l'approche d'une prise de position très attendue du gouvernement sur le sujet. Le gouvernement gambien a théoriquement jusqu'au 25 mai pour se prononcer basée sur les recommandations produites 6 mois auparavant par une commission qui a enquêté pendant plus de 2 ans sur les méfaits perpétrés sous M. Diamé entre juillet 1994 et janvier 2017. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Mouamadou Moufa.
Au Cameroun, les producteurs de bananes ont exporté 18 247 tonnes au cours du mois d'avril 2022, selon l'Association bananière du Cameroun. Investir au Cameroun note qu'il s'agit d'une hausse de 27,7% par rapport à la même période l'année dernière. Une hausse qui s'explique par l'arrivée à maturité des plantations de 2021 et la reprise des activités dans certaines plantations qui faisaient face à l'insécurité engendrée par la crise anglophone. Le chiffre d'affaires hors taxes de la société Total Energy Marketing Sénégal, filiale de la multinationale Total Energy, a progressé de 19% au terme du premier trimestre 2022, comparé à la même période en 2021, ont annoncé les dirigeants de cette société basée à Dakar. Ce chiffre d'affaires s'est établi à 104 milliards de francs CFA contre 87 milliards de francs CFA au 31 mars 2021. Ce résultat s'explique en partie par la hausse des coûts du pétrole à l'échelle mondiale. La chaîne hôtelière américaine Marriott retrouve ses revenus pré-Covid dans la zone Afrique-Moyen-Orient. Selon les résultats trimestriels rendus publics le 4 mai, le revenu par chambre disponible y a même été supérieur à son niveau pré-Covid au premier trimestre 2022, avec une hausse de 12% par rapport à la même période en 2019. Des résultats qui s'expliquent par la levée des restrictions et la reprise des activités touristiques.
Place maintenant au sport avec Nani Talani.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. En football, demi-finale aller de la Ligue des champions de la CAF. Demain samedi, explication entre Al Ahly d'Égypte, tenant du titre, et l'équipe algérienne de l'Entente Sétif. Entraîné par le Sud-Africain Pitso Mosimane, Al Ahly espère lors de ce match à domicile se rapprocher d'un 3e titre consécutif en Ligue des champions et le 11e au total. Dans l'autre demi-finale de la Ligue des champions de la CAF, les Marocains de Wydad de Casablanca et les Angolais de Petro Luanda s'affronteront au Stade national le 11 novembre, près de la capitale angolaise. Petro revient à ce niveau après 21 ans d'absence. Le Wydad a été remarquablement constant dans la compétition phare des clubs africains, atteignant les demi-finales cette saison pour la 6e fois en 7 tentatives. Football toujours, les Scorpions de la Gambie, privés de stade, joueront leur premier match à domicile pour les qualificatifs de la CAN 2023 au stade Lat Dior de Thiès, à 70 km de Dakar au Sénégal le 4 juin contre le Soudan du Sud. C'est ce qu'indique la Fédération gambienne de football sur sa page Facebook. Pendant ce temps, le nouveau stade du Sénégal abritera le match des Lions de la Teranga face au Bénin à en croire Sport News Africa. Kylian Mbappé va-t-il prolonger au Paris Saint-Germain? La mère de Mbappé, Feyza Lamari, n'y croit pas. Elle dément une information en France selon laquelle son fils aurait accepté en principe de rester au Paris Saint-Germain jusqu'à 3 ans et d'éviter de déménager au Real Madrid. C'est ce que le journal Le Parisien a rapporté hier jeudi, affirmant que les propriétaires qatariens du PSG avaient offert à Mbappé un salaire de 50 millions d'euros par saison et une prime de fidélité de 100 millions d'euros s'il restait. Athlétisme cette fois-ci, l'Italien Marcel Jacobs, champion olympique surprise du 100 mètres l'été dernier, fait son retour sur la ligne droite samedi à Nairobi au Kenya, 9 mois après son titre acquis à Tokyo. Le sprinter de 27 ans se présente en tête de gondole du meeting continental Tour de Nairobi, 2e division mondiale, au plateau de sprint royaux, avec l'Américain Fred Curley, médaillé d'argent sur 100 mètres à Tokyo, la triple championne olympique jamaïcaine Shelly Ann Fraser-Pryce et la sensation namibienne Christine Mboma. Pour terminer, les 2 meetings d'athlétisme de la Ligue des Diamants prévus en Chine cet été n'auront pas lieu en 2022 en raison des restrictions de voyage qui continue de s'appliquer dans le pays, confronté à une nouvelle flambée de Covid-19, annoncent ce vendredi les organisateurs.
Page de sport signée Nani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Génocide au Rwanda, la justice française juge à partir de lundi à Paris. Laurent Boutchibaruta, ancien préfet de Gikongoro, il est poursuivi pour génocide, complicité de génocide et complicité de crime contre l'humanité. Son nom figure en tête de la liste des 75 génocidaires, responsables politiques, policiers et militaires locaux, accusés d'avoir organisé les massacres dans la zone de Murambi, dans le district de Gikongoro. Éric Manirakiza a joint à Paris Maître Richard Gisagara, l'un des avocats des parties civiles dans cette affaire.
L'ouverture de ce dossier, comme tous les procès de génocide qui s'ouvrent en France, c'est d'abord une grande victoire parce que ça vient de loin. Vous savez que depuis plusieurs années, plusieurs personnes, plusieurs institutions, plusieurs associations se sont battues pour que la France accepte aussi de juger des personnes qui ont cru trouver refuge sur son territoire. Ces choses faites depuis quelques années, il y a déjà 4 personnes qui ont été jugées. Le dossier de M. Boutchibaruta va s'ouvrir également. C'est le 4e dossier et c'est la 5e personne qui va être jugé sur le territoire français. Et donc, ce que ça signifie, c'est une victoire, mais de la justice. Hein, ce n'est pas uniquement une victoire pour les parties civiles que je représente et d'une manière générale pour les victimes du génocide, mais c'est tout simplement une victoire de la justice parce que le génocide est un crime contre l'humanité. Donc, il faut que toutes les justices du monde acceptent de tenir ces procès et surtout les tenir dans des délais raisonnables. Et nous commençons maintenant à aller au-delà du délai raisonnable, puisqu'il y a 28 ans que le génocide a eu lieu.
Qui est Laurent Boutchibaruta? Qui était-il? Quel était son rôle dans le génocide?
Monsieur Laurent Boutchibaruta est poursuivi pour génocide actuellement, donc il est suspecté d'être impliqué dans les actes de génocide qui ont été commis au Rwanda. Il était le préfet de la préfecture de Gikongoro à l'époque. Il faut, pour comprendre qui est M. Boutchibaruta et la gravité des faits qui lui sont reprochés, il faut garder à l'esprit que le régime qui a commis le génocide au Rwanda était un régime qui était très très organisé, avec une administration très tatillonne, très organisée, très centralisée. Et donc les préfets jouaient un rôle central dans la transmission des décisions prises par le gouvernement, et c'était donc les préfets qui étaient à la tête de l'administration au niveau des préfectures. Et M. Boutchibaruta, évidemment, donc, il était préfet, donc un relais des décisions qui ont été prises par le régime génocidaire qui était en place en 1994 au Rwanda. Il a joué son rôle, notamment il a organisé, en tout cas participé à des réunions qui étaient appelées des réunions de sécurité et dans cette région de Gikongoro, et qui est la région de Gikongoro, un des préfectures où a eu lieu de massacres de grande ampleur dans des lieux où des personnes avaient été rassemblées pour être massacrées ensemble. Donc c'est pour ces faits-là qui sont extrêmement graves que M. Boutchibaruta est poursuivi, et notamment en tant que un maillon important de l'administration qui a mis en exécution le génocide commis contre les Tutsis en 1994.
C'était Maître Richard Gisagara, l'un des avocats des parties civiles, joint à Paris. La version complète de cette interview est disponible sur notre site internet voafrique.com.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Au Sénégal, le procès des 6 sages-femmes de l'hôpital Amadou Sakir Mbaye, inculpées pour non-assistance à personne en danger suite à la mort de Astou Sokna, s'est terminé tard hier dans l'enceinte du tribunal de Louga, au nord de Dakar. Après des débats souvent entendus, les protagonistes ont été renvoyés par le juge qui a mis l'affaire en délibéré au 11 mai. Compte rendu de notre envoyé spécial à Louga, Seydina Abagay.
Au bout de la nuit et après 15 heures d'audience, le juge a mis l'affaire en délibéré. Les avocats de la défense, les avocats de la partie civile et les membres des syndicats des personnels de santé, venus prêter main forte à leurs camarades, se sont exprimés devant la presse au sortir du tribunal. Dr Amadou Yeri Camara, secrétaire général du SAMES et représentant du collectif des travailleurs de la santé, s'est indigné du traitement reçu par ses collègues.
C'est un moment de consternation parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas qu'un procès qui a fini de démontrer qu'aucune négligence n'a été effectuée et que la dame qui a été reçue a bénéficié de tous les soins que cela demandait puisse être maintenue dans les liens de la détention. On ne comprend pas parce qu'on pensait que toutes les conditions étaient réunies pour la pour qu'elle puisse bénéficier d'une liberté provisoire en attendant le verdict.
Du côté de la partie civile, on estime que les poursuites contre les 6 sages-femmes et la détention de 4 d'entre elles sont totalement justifiées. Les avocats de la famille de Astou Sokhna sont convaincus de la culpabilité des sages-femmes. Pour Maître Ousseynou Gueye, il n'y a pas de doute possible.
L'attitude comportementale de ces sages-femmes d'État mais établie de manière non équivoque ce délit. Parce que comment voulez-vous que des sages-femmes d'État ne fassent pas les constantes, ne mentionnent absolument rien sur le dossier médical, la biaisant au point que l'équipe qui avec qui il y a une passation ne puisse pas comprendre ce qui a pu se passer. Donc, et les instructions du médecin gynécologue n'ont pas été suivies parce qu'elle disait qu'il fallait faire une surveillance accrue parce qu'elle a une pathologie qui est très très grave.
Ces allégations sont intégralement rejetées par les avocats de la défense. Pour eux, les déclarations et témoignages ont clairement montré que les prévenus ont prodigué des soins à la défunte Astou Sokhna. Maître Abdoul Daf, avocat des sages-femmes, pense que la vindicte populaire a desservi ses clientes.
On a parlé de perfusion, on a parlé de diagnostic, on a parlé de consultation, on a parlé de tout ça. Ça ne reflète pas la réalité des débats d'or. Parce que nous, lorsque les gens parlent, on a l'impression que cette dame-là, elle est paix à son âme, elle est décédée sans être vue. Sans être vue ni par une sage-femme, ni vue par une gynécologue. Alors qu'il est ressorti des débats d'audience qu'elle a été vue par des sages-femmes, mais également elle a été vue par des gynécologues. Et elle a été admise dans des soins, elle a bénéficié de perfusion, elle a bénéficié d'un diagnostic. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes en droit de penser qu'il n'y a pas, de non-assistance.
Après avoir écouté toutes les parties, le juge a donc décidé de mettre l'affaire en délibéré tout en rejetant la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de la défense. 4 des 6 sages-femmes sont donc retournées en prison pour une semaine supplémentaire. Elles vont de nouveau comparaître le 11 mai pour connaître le verdict retenu par le juge et ses assesseurs. Seydina Bagui pour VOA Afrique, Louga.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Une vidéo devenue virale d'un employeur chinois en train de fouetter un employé ligoté est encore fraîche dans les mémoires des Africains et a suscité l'indignation sur tout le continent. Le mois dernier, un tribunal rwandais a condamné ce ressortissant chinois et directeur de la mine, Sun Shujun, à 20 ans de prison pour ses actions contre son employé. Selon des experts, les abus des patrons chinois sur des travailleurs locaux ne sont pas rares sur le continent. Le reportage de Kate Bartlett. Depuis Johannesburg, le récit est de Rosine Munezero.
La vidéo d'un directeur de mine, un ressortissant chinois fouettant un employé au Rwanda, montre un aspect sombre de la présence chinoise en Afrique dans le cadre de l'initiative de Pékin pour développer des infrastructures et le commerce à travers les continents. Suite à cette affaire qui a fait beaucoup de bruit, l'ambassade de Chine à Kigali a averti ses compatriotes de se conformer aux lois et règlements locaux. Et son homologue en Namibie a publié sur sa page WeChat des directives conseillant les Chinois vivant et travaillant en Namibie sur la manière de gérer les conflits salariaux avec les travailleurs locaux. L'ambassade a également averti les patrons chinois d'éviter d'intimider ou de contraindre leurs employés. Un rapport publié l'an dernier par le Business and Human Rights Resource Center, basé au Royaume-Uni, a révélé que 181 allégations de violation des droits de l'homme liées à des investissements chinois ont été enregistrées sur le continent entre 2013 et 2020. Claude Kabemba, directeur exécutif du groupe de réflexion Southern Africa Resource Watch, affirme que les entreprises chinoises opérant dans les industries extractives sont particulièrement problématiques, notamment en République démocratique du Congo.
Le comportement des sociétés minières chinoises, elles respectent très rarement les droits de travailleurs des mines.
Au Zimbabwe aussi, les abus des employeurs chinois envers les travailleurs locaux ont été enregistrés. L'un des exemples les plus flagrants a eu lieu en 2020, lorsqu'un employeur chinois d'une mine de la ville de Gweru a tiré sur 2 travailleurs et les a grièvement blessés après un conflit salarial. L'ambassade de Chine à Harare a déclaré à l'époque qu'il s'agissait d'un incident isolé. Toutefois, Chamisom Tissi, directeur adjoint de l'Association zimbabwéenne de défense de l'environnement, estime que les abus répétés des employés chinois au Zimbabwe pourraient être dus au racisme.
Nous avons enregistré certains cas là-bas où les employeurs chinois traitaient les Zimbabwéens d'une manière qui n'est pas digne d'être humain. Je pense que le problème est qu'ils se considèrent comme supérieurs.
Mais M. Kabemba estime que les gouvernements africains sont également à blâmer, car ils recherchent désespérément les investissements directs de la Chine.
Je pense que le plus gros problème est l'incapacité des gouvernements africains à demander des comptes à ces entreprises chinoises.
La Chine est devenue un acteur énorme sur le continent grâce à l'initiative du président chinois Xi Jinping. Mais les abus commis par des entreprises et des Chinois en Afrique créent des frictions avec les communautés locales, ce qui peut finir par compromettre les relations.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le président Joe Biden convoque la semaine prochaine un autre sommet virtuel de dirigeants pour discuter des prochaines étapes de la lutte contre la pandémie, mais sans le financement dont il dit avoir besoin pour continuer de lutter contre le coronavirus à l'étranger. Un reportage des correspondants de la VOA à la Maison-Blanche, le récit est de Claire Morin-Gibou.
Le président Joe Biden dit avoir de grands espoirs pour le reste du monde en organisant un deuxième sommet virtuel sur la lutte contre le coronavirus. Les États-Unis se sont engagés à donner 1,2 milliard de doses de vaccins. 535 millions ont déjà été livrés. L'attachée de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le sommet ne se limitait pas aux vaccins.
Il s'agit de s'assurer de tout ce que nous pouvons fournir pour protéger le personnel de santé, augmenter l'approvisionnement en oxygène, améliorer l'accès aux contre-mesures médicales. Ce sont toutes les étapes que nous espérons et prévoyons de discuter.
Le sommet mettra aussi l'accent sur les vaccins, l'amélioration de l'accès aux tests et aux traitements et le financement de la préparation à la pandémie. Les États-Unis vont demander aux pays riches d'augmenter leur financement, alors que dans le même temps, l'Amérique vient les mains vides. Le Congrès n'a pas encore approuvé les 5 milliards de dollars demandés par Joe Biden pour faire face à la pandémie. Krishna Udaya Kumar est le directeur du Duke Global Health Innovation Center.
C'est de la politique interne. Se présenter sur la scène mondiale sera toujours un défi sans de nouveaux engagements significatifs à montrer.
Ce sommet est aussi une occasion de partager les meilleures pratiques. Les nations africaines, qui ont une vaste expérience avec d'autres maladies transmissibles comme le VIH, la tuberculose et Ebola, ont des défis et des atouts en matière de santé publique. Le docteur Tierno Balde de l'Organisation mondiale de la santé.
Nous ne pouvons pas avoir une seule solution, vous savez, qui pourrait convenir à toutes les différentes situations. Alors, avant tout, il s'agit d'écouter, de comprendre la réalité et d'essayer de comprendre cela. Et donc, je veux dire, de construire la solution la plus appropriée avec différents pays, avec différents partenaires.
Les deux premières années de la pandémie ont été marquées par la thésaurisation des vaccins par les pays riches, menaçant l'approvisionnement des pays les plus pauvres. Alors que le monde dépasse sa phase de gestion de crise, les défenseurs affirment qu'une meilleure coordination est nécessaire pour garantir l'égalité d'accès. Tom Hart est président de la campagne One.
Our deep fear. Notre profonde crainte basée sur une connaissance approfondie de tous les acteurs de ce pays et d'autres et que cela n'arrivera pas.
Le président Biden co-organise cet événement virtuel le jeudi 12 mai avec l'Allemagne, le Belize, l'Indonésie et le Sénégal.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.